France Inter.
Ce soir, émission consacrée aux illusions et aux mécanismes du cerveau avec deux invités. André Didier-Jean est professeur de psychologie cognitive à l'université Marie et Louis Pasteur à Besançon et membre senior de l'Institut universitaire de France. Il a notamment publié La Madeleine et le savant balade proustienne du côté de la psychologie cognitive au seuil. Ses recherches portent sur l'apprentissage, la mémoire et la perception visuelle. Cyril Thomas est maître de conférences en psychologie cognitive à l'université Marie et Louis Pasteur à Besançon et membre junior de l'Institut universitaire de France. Il crée également des tours pour de nombreux prestidigitateurs dans le monde. Ensemble, ils publient chez Odile Jacob « Les secrets de la prestidigitation, comment les magiciens manipulent notre esprit », passionnant ouvrage qui a l'élégance d'expliquer certaines illusions sans trop dévoiler les secrets des professionnels de la magie. Saviez-vous qu'on pouvait influencer votre choix de cartes à jouer, et autres d'ailleurs, qu'on pouvait vous faire voir une chose absente ou ne pas voir une chose présente, qu'on pouvait même implanter dans votre psyché de faux souvenirs? La psychologie s'est penchée sur ce qui nous rendait vulnérables aux illusions et à la manipulation mentale, des connaissances utiles dans un univers trompeur, mais qui ne nous empêcheront pas d'être émerveillés. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
André Didier-Jean, Cyril Thomas, bonsoir.
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 Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé, Cyril Thomas?
Alors, c'est une bonne question. On a fait une conférence sur magie et psycho à Las Vegas cette année et j'ai eu la chance d'être invité dans le musée privé de David Copperfield.
Oh, wow.
Par un grand hasard. Et dans ce musée privé, il m'a montré une illusion qui s'appelle l'oranger, qui est une illusion créée par Robert Houdin, qui est le père de la magie moderne en France.
Incroyable.
En français, qui était l'original. Alors, il ne fonctionnait pas l'original, mais il m'a montré une copie qui fonctionnait de cet arbre qui est un automate et qui fait apparaître des oranges magiquement. C'était un rêve d'enfant et je l'ai réalisé avec 5-6 personnes en face de David Copperfield en personne. Donc c'était incroyable.
Et vous avez trouvé le truc ?
Je connaissais déjà le truc.
Ah bon, je vous
demande
pas.
Mais je me suis mis ce truc de côté dans mon esprit pour pas y penser et vraiment profiter du tour comme un enfant, et c'était magnifique.
Est-ce que David Copperfield est entré en lévitation devant vous ?
Non, mais il avait une figure à son effigie, en carton, dans le hall, de lui en train de léviter. Mais il a pas fait ça.
Mais il a fait ça pour quand il n'a pas le temps, c'est son effigie qui lévite à sa place.
Oui, c'est ça, exactement. Tout à fait.
André Didier-Jean, quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Alors, difficile de raconter un moment enthousiasmant après suite Cyril, donc je vais en prendre un beaucoup plus banal, je crois. J'étais hier pour le travail à Clermont-Ferrand, pour la première fois de ma vie, où j'ai retrouvé un ami qui travaille là-bas, c'était pour le travail. Et j'avais une sorte de running gag avec lui, de dire que je connaissais Clermont-Ferrand que par Ma nuit chez Maud.
Bien sûr, de Romain.
Et je me doutais que Clermont-Ferrand ne devait pas beaucoup ressembler au Clermont-Ferrand de Ma nuit chez Maud, à la fin des années 60, en hiver. Et en fait, un peu, et c'était un moment très plaisant hier soir de cette pierre noire et cette soirée par beau temps dans la ville de Manu chez Maud.
Alors, Cyril Thomas, vous avez commencé à pratiquer la magie en première année de licence de psychologie, et là, à ce moment-là, s'est produit un déclic.
Exactement. En fait, j'étais avec un de mes meilleurs amis, Raphaël Klein. Et j'ai ramené un jeu de cartes et je commençais à faire des petites manipulations de cartes que j'avais vues sur Internet. Et de fil en aiguille, manipulation de cartes égale manipuler les cartes. Donc on pouvait faire aussi des tours de magie avec ça. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que les tours de magie que j'arrivais à créer aussi, puisque j'en créais quelques-uns avec mon ami, ressemblaient sur certains points de vue à ce qu'on apprenait en psychologie. Notamment le détournement d'attention et c'était justement les cours d'André Didier-Jean en psychologie cognitive qui m'ont fait ce déclic, ces espèces d'erreurs perceptives, ces biais d'attention, de mémoire que je retrouvais un petit peu dans les tours de magie. Et en fait, très vite, j'ai eu la passion pour la psychologie cognitive et les tours de magie, deux passions qui se sont combinées main dans la main et qui ont donné la suite de mes études, évidemment, sur le domaine de la psychologie de la prestidigitation, qui est vraiment un domaine un peu niche en France, mais qui est en progression assez exponentielle dans le monde. Donc, c'est vraiment venu à la base d'une petite manipulation de cartes qui, de fil en aiguille, sur les bancs de la fac, a donné quelque chose de beaucoup plus intéressant.
André Didier-Jean, d'où est né votre intérêt pour la perception visuelle ?
C'est un intérêt global pour la psychologie, je crois, sur ce qui concerne nos processus cognitifs. C'est vrai que la perception visuelle a quelque chose d'assez fascinant parce que c'est un domaine où il y a un décalage incroyable entre ce que l'on croit voir et ce que l'on voit vraiment. C'est-à-dire que quand on explique aux gens, quand j'explique à mes étudiants, qu'en fait, on fait des petites fixations oculaires et puis on voit très peu de choses quand on regarde qu'au centre de là où on regarde, que c'est un peu comme se promener dans la nuit avec une torche. Il y a un tel décalage avec notre ressenti de la perception, on a l'impression de voir le monde tel qu'il est, que je trouve que c'est un domaine assez fascinant.
Est-ce que vous êtes devenus tous les deux plus vigilants, justement, avec ce savoir en plus des gens ?
Oui, je ne sais pas si plus vigilant, parce qu'en fait, heureusement, au quotidien, on ne passe pas son temps à essayer de décortiquer nos fonctionnements cognitifs, il me semble. Mais disons, quand on se penche dessus, on a un plaisir particulier, sans doute, avec les connaissances qu'on a sur la façon dont les choses fonctionnent.
Donc vous vous faites avoir toujours ?
Moi, de mon côté, en fait, vu que je crée pas mal de tours de magie, je suis quelqu'un d'assez opportuniste pour créer des nouvelles choses. J'ai tendance au quotidien à toujours noter dans mon esprit pourquoi, à un moment donné, j'ai commis une erreur, que ce soit une erreur perceptive, une erreur d'inattention ou autre chose, pour essayer de disséquer ça et me dire comment je peux le réutiliser derrière dans un tour de magie. Donc, à la différence d'André, qui est peut-être pas toujours aux aguets sur ce genre d'éléments, moi, j'avoue que j'ai une sensibilité vraiment particulière à aimer me faire tromper, mais vraiment dans la vie de tous les jours. En fait, la magie, elle est tout autour de nous. Il y a des moments où, en fait, on a l'impression de percevoir quelque chose et où, voilà, où j'ai posé mon téléphone là, non, il est là. Pourquoi j'ai commis cette erreur? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je peux reproduire ça à une autre échelle pour émerveiller les personnes? Donc moi, j'ai souvent l'esprit très actif sur ces choses-là, même des fois la nuit, j'y pense. Et en fait, j'aime commettre des erreurs et je fais vraiment attention aux erreurs que je commets. Pas forcément pour ne pas les répéter, mais plutôt justement pour les répéter au sein d'un tour de magie, en tout cas.
Alors, il y a un problème qu'on découvre dans votre ouvrage « Les secrets de la prestidigitation ». Et justement, Cyril Thomas, on m'a dit que vous étiez l'homme de la situation pour le soumettre aux auditeurs. C'est le problème de la raquette et de la balle.
Oui.
Qui font un total de 101 euros, mais je vous laisse poser le problème et on donnera la solution. Mm-hmm. Chers auditeurs, concentrez-vous bien, on donnera la solution en fin d'émission parce qu'il faut un peu réfléchir.
Ah, il faut un peu réfléchir, effectivement. Alors, c'est un problème qui peut paraître assez simple. Imaginez, voilà, vous êtes dans un magasin et vous savez qu'une raquette de tennis et une balle valent ensemble 101 euros. Donc le tout, c'est 101 euros, d'accord ? La raquette, elle vaut 100 euros de plus que la balle. Question simple. Quel est le prix de la balle ? Donc les deux ensemble valent 101 euros, la raquette vaut 100 euros de plus que la balle. Quel est le prix de la balle ?
On vous donnera la solution en fin d'émission et à vos stylos.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Je suis avec les chercheurs en psychologie cognitive Cyril Thomas et André Didier Jean pour parler des secrets de la prestidigitation, comment les magiciens manipulent notre esprit aux éditions Odile Jacob. Mettons-nous dans l'ambiance.
Tonight, ladies and gentlemen, from the furthest corners of the world, where the dark arts still hold sway, I present to you a man who has unlocked these mysteries. Eisenheim.
L'illusionniste de Neil Burger. Cyril Thomas, André Didier Jean, est-ce que vous aimez les films de magie ?
Oui, plutôt.
André Didier Jean.
Moi, je suis très très fan des films de magie. J'aime vraiment beaucoup ça. Notamment L'illusionniste. C'était un extrait de L'illusionniste, hein, c'est ça ?
Oui.
Ouais, L'illusionniste et le Prestige, qui sont deux films que j'aime vraiment beaucoup.
De Nolan, dont on passera un extrait tout à l'heure, si tout va bien. La psychologie cognitive, ça étudie la fonction mentale qui nous permet de traiter l'information, une faculté très faillible. Et en fait, on se rend compte en vous lisant que le complice principal du magicien, c'est notre cerveau. André Didier Jean.
Oui, effectivement, en fait, ce dont vont pouvoir se servir les magiciens, et je crois que je l'évoquais pour la perception, mais c'est assez général, c'est qu'en fait, notre système cognitif, notre façon de traiter l'information est très limitée. En fait, on ne peut pas penser à plein de choses en même temps, on ne peut pas traiter beaucoup d'informations en même temps. Et l'adaptation, au final, nous a munis de sortes de raccourcis, et le problème de la raquette et de la balle, dont on reparlera dans la solution à la fin, l'illustre aussi, de raccourcis mentaux, qui fonctionne hyper bien. C'est-à-dire qu'en vrai, au quotidien, on n'est pas très gêné par notre incapacité à penser à plein de choses en même temps, par le fait qu'on ne voit pas grand-chose du monde qui nous entoure. Pourquoi ? Parce qu'on a des raccourcis mentaux. Mais les magiciens, et c'est ce qu'on raconte dans le livre, vont savoir justement se glisser dans ces failles-là, exploiter les zones d'ombre qu'on ne voit pas, pour y faire des choses qui ont pour objectif de nous tromper et de nous émerveiller par la même occasion.
Alors il y a un mécanisme qui s'appelle la cécité d'inattention. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la vidéo d'Ulrich Neisser, reprise par des chercheurs qui se verront couronnés en 2004 par un IG Nobel, ignoble Nobel. Et d'ailleurs, dites-nous ce que c'est qu'un ignoble Nobel, je le prononce à la française.
C'est un prix assez rigolo qui est remis chaque année à Harvard. En général, ils font venir sur scène des vrais prix Nobel pour le donner. Et le slogan de ce prix, c'est ça récompense les recherches qui font rire puis réfléchir. Et l'idée, c'est qu'ils donnent le prix à des recherches qui, au premier abord, semblent complètement absurdes. On se dit, mais il y a des gens qui sont payés pour faire ces recherches-là, mais qui, en fait, sont publiées dans des bonnes revues scientifiques parce qu'elles contribuent véritablement au domaine et elles apportent une véritable innovation au domaine.
Alors justement, Cyril Thomas, un mot sur cette vidéo qui a été reprise et enrichie d'un gorille.
Alors justement, la fameuse vidéo du gorille invisible, hein, d'ailleurs, c'est le titre d'un de leurs livres ensuite.
Alors dans votre livre, je précise pour les auditeurs qu'il y a des QR codes et qu'on peut accéder à plein de tours de magie et vidéos qui illustrent tout ce dont vous parlez.
Oui, tout à fait. Celle-ci en fait partie. Il y a des variantes de ce tour, mais globalement, imaginez, voilà, vous avez deux équipes de joueurs de basket qui s'affrontent. Ils se font des passes, donc il y a une équipe blanche, une équipe noire. Vous devez compter le nombre de passes avec le ballon. Et en réalité, pendant que vous comptez les passes, il y a une personne déguisée en gorille qui passe en plein milieu de la vidéo, qui se tape sur la poitrine, donc qui fait une pause, et puis qui traverse le terrain. Et les résultats de cette étude montrent que les personnes, étant tellement concentrées sur les passes de ballon de basket, n'ont pas les ressources attentionnelles pour détecter le gorille. Chose très surprenante, c'est qu'ils ne détectent pas le gorille, alors que parfois, avec une machine qui permet de calculer leur mouvement oculaire, hein, qui permet de voir où est-ce que les personnes regardent, on se rend compte que les personnes qui ne détectent pas le gorille ont eu parfois leur regard qui était posé sur le gorille pendant la vidéo. Ça montre bien la différence, la nuance entre là où on pose notre regard et là où on pose notre attention. Et on en parle justement effectivement un peu plus dans l'ouvrage.
Mais on est incroyablement limité. En fait, la fascination pour la magie qui existe depuis des siècles, c'est parce que le réel est décevant, le réel ne suffit pas.
Effectivement, le cerveau, c'est vraiment une machine. On va admettre que c'est une machine qui est limitée. Nous, on est persuadés de voir le monde tel qu'il est. C'est pas vrai. Notre cerveau reconstruit toujours la réalité. Et justement, parce que notre cerveau est limité, il va juste traiter certaines parties de l'information. Il va tirer les informations les plus pertinentes de son environnement. C'est d'ailleurs ça, l'attention. L'attention, c'est comme une lampe torche qui va se placer sur les éléments que notre cerveau juge comme étant les plus pertinents. Parce que ne pouvant pas traiter, on doit faire le tri. Alors, j'ai envie de dire, c'est plutôt adapté pour une machine limitée d'arriver à faire ces choses-là. Donc c'est plutôt bon signe. Seulement, il arrive parfois que ces automatismes, cette attention qui va se placer sur un objet pertinent ou autre, puissent être mal guidés. Notamment, les magiciens savent comment créer cet aspect de pertinence pour guider notre attention, notre lampe torche quelque part. Et tout ce qui va se passer en dehors de cette fenêtre attentionnelle, de ce focus attentionnel, ça ne va pas être détecté comme si c'était inexistant, comme si on était aveugle à ce qui se passait en dehors de ça.
Alors j'ai découvert quelque chose d'assez fascinant, il y a plein de choses qu'on découvre dans votre ouvrage. André Didier-Jean, est-ce que vous pourriez nous dire ce que Eugène Robert Houdin appelait le regard magnétique du magicien ?
Alors ça renvoie à quelque chose qu'utilisent beaucoup les magiciens, qui est que de manière automatique, quand vous êtes face à quelqu'un et que ce quelqu'un tourne son regard vers une direction, et bien votre attention et votre regard vont être attirés par cette direction. Et ça a été montré en psychologie, c'est vraiment automatique, on ne peut rien y faire. Et donc un magicien qui sait ça, s'il veut faire quelque chose de sa main droite et que vous ayez le regard ailleurs à ce moment-là, il lui suffit de tourner ses yeux vers la main gauche ou vers la gauche, et automatiquement, votre attention, votre regard va être porté dans cette direction-là.
Et donc ça, on peut l'utiliser, par exemple, si on est dans le métro et qu'il y a une altercation. On peut aussi, face à la personne avec qui on est sur le point de se battre, j'imagine le pire, hein, c'est ma spécialité, on peut, par exemple, faire cette feinte de dessin animé presque, c'est-à-dire de regarder derrière lui comme si on voyait un truc incroyable et il y a toutes les chances pour qu'il se retourne.
Alors se retourner, je ne sais pas, mais
on n'essayait pas ça, chers auditeurs.
Si, mais que son attention, c'est une feinte classique dans les deux sports de combat.
Oui, bien sûr.
Il n'y a pas que les magiciens qui exploitent ça. Le fait que, effectivement, on peut diriger l'attention d'autrui et notamment par son regard.
Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
Iron Maiden, The Number of the Beast, Cyril Thomas, vous vous intéressez particulièrement au processus cognitif en jeu dans les phénomènes d'anticipation perceptive, ainsi que dans l'interprétation de séquences visuelles ambiguës. Alors, qu'est-ce que l'anticipation perceptive qui permet, par exemple, l'illusion du doigt coupé et qui a été utilisée lors d'un concert du groupe de métal Iron Maiden ?
Alors, l'anticipation perceptive, donc il y a deux principes. Au niveau de l'anticipation perceptive, si vous voulez, là, imaginons qu'il y a une voiture qui arrive dans votre direction. Okay ? Votre rétine va prendre une photographie de cette voiture, ça va aller très vite. Seulement, le temps que votre cerveau traite cette photographie, ça va prendre un petit délai. Ce qui fait que lorsque cette photographie de la voiture, à un endroit donné, arrive à votre cerveau, à votre conscience, et ben en fait, cette image, elle est déjà fausse. Parce que pendant les quelques millisecondes de traitement de l'information, la voiture a eu le temps d'avancer vers vous. Donc pour pallier ce problème, eh bien votre cerveau va compenser l'image mentale. En fait, vous allez toujours traiter activement les images en lui rajoutant une forme d'anticipation, en se disant « Ok, il y a cette photo, elle est bien cette voiture ici, mais on va lui rajouter quelques millimètres, quelques centimètres d'avancement en plus vers moi. » Parce que c'est une sorte d'anticipation sur la base de mes attentes qui permet justement, d'une manière adaptative, à pallier à ces problèmes. Et le doigt coupé, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on ne voit jamais rien en entier. Là, par exemple, je vous vois, mais je ne vois pas vos jambes. Mm. Pourtant, je suis persuadé qu'elles existent.
Et pourtant, je suis une jambe.
Et pourtant, vous êtes une jambe. Un exemple que je donne souvent, c'est un ballon. On n'a jamais vu un ballon en entier de notre vie, on n'a jamais vu une sphère en entier, on voit toujours une demi-sphère. Regardez, hein, essayez de voir une sphère, vous allez voir une demi-sphère, mais votre cerveau va toujours compléter les parties manquantes sur la base de ses connaissances, parce qu'en fait, on vit dans un monde qui est toujours découpé, il n'est jamais entier, et notre cerveau, il a cette capacité incroyable face à ce monde qui est complètement irrationnel, parce que, ben, il manque plein de choses tout le temps, à compléter automatiquement les parties manquantes sur la base de ce qu'il connaît du monde, sur la base des occurrences, de ce qui se passe en général. Et ça peut mener des fois à des erreurs d'interprétation. Là, je suis sûr que vous avez deux jambes. Peut-être que c'est pas le cas.
Pas sûr.
On
ne sait pas ce qui se passe sous cette table.
On ne sait pas du tout.
Parce que, par exemple, on vous voit en photo dans ce livre, oui, avec une louche. Et avec cette louche, vous arrivez quand même à nous faire croire que vous avez un pouvoir magique incroyable qui permet de lever une bille de métal dans les airs.
Exactement.
C'est une question de point de vue, d'angle.
C'est une question d'angle et c'est surtout une question de comment, face à cet angle, notre cerveau va se dire, à chaque fois que j'ai vu des demi-sphères, il y avait le reste de la sphère derrière. Donc si je vois une demi-sphère, mon cerveau va en déduire quoi ? Qu'il y a une demi-sphère jusqu'à me créer cette impression perceptive, comme si je la voyais, d'une sphère entière, symétrique, alors que ce n'est pas le cas.
Alors, il y a autre chose, il y a une illusion qui s'appelle l'illusion du triangle de Kanisha.
Kanidza, oui.
Kanidza, pardon, je le prononçais à la polonaise. Donc, c'est un triangle, en fait, un faux triangle.
Oui.
Mais l'esprit va reconstituer le triangle en intégralité. Et ça m'a fait penser au fait que dans un texte, quand on garde la première et la dernière lettre de chaque mot, si on met toutes les lettres du milieu dans n'importe quel ordre, en fait, on arrive quand même à lire le texte.
C'est des raccourcis mentaux dont on parlait tout à l'heure. C'est qu'en fait, notre cerveau, il est limité. Donc en fait, il ne peut pas créer des nouvelles catégories pour chaque objet. Ça, c'est une table. Elle est différente de toutes celles que j'ai rencontrées, mais je vais la labelliser comme étant une table. Eh bien, lorsque votre cerveau voit quelque chose qui ressemble à un triangle mais qui n'est pas exactement un triangle, il va se dire « Attends deux secondes, on crée une nouvelle catégorie ? On n'a pas la place. Bah, qu'est-ce qu'on fait ? Oh, regarde, ça ressemble vachement à ce qui existe déjà, un triangle. Bah, tu sais quoi ? Allez, on va rajouter ces petites parties manquantes là, on va enlever ça, et puis hop, c'est un triangle. Et vas-y, fais-lui voir que c'est un triangle. » Et notre cerveau va vraiment nous envoyer cette image de « Je vois un triangle, il n'existe pas, mais ça ressemble suffisamment pour le mettre dans la même case. » On fait rentrer des ronds dans des carrés, entre guillemets.
André Didier-Jean, on découvre aussi la fragilité de la mémoire visuelle à court terme, et c'est un peu déprimant parce que déjà à long terme, bon, on est assez mauvais, mais alors à court terme, je pense par exemple au tour de cartes fameux où on montre plusieurs cartes, on dit au spectateur, choisissez une carte, il se concentre tellement sur sa carte, on lui dit, on l'a enlevée dans l'image d'après, mais ce qui s'est passé, c'est que plus aucune carte d'origine n'est là.
Oui, tout à fait, on présente ce tour dans l'ouvrage et en fait, ça s'appuie sur un phénomène qui, en psychologie, a été montré dans les années 2000 et qui a vraiment changé complètement la façon d'envisager justement la perception visuelle et la mémoire visuelle. Où on s'est rendu compte qu'effectivement, si on change des éléments qui sont devant nous, même pendant un clignement d'yeux, les gens ne s'en rendent compte pas. Ça a pu être montré, par exemple, au départ, avec du texte. Les gens devaient lire un petit texte sur un écran. Et puis ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chaque mot comportait des lettres en majuscules, des lettres en minuscules. Et à chaque fois que les gens clignaient des yeux, ce qui était en majuscule devenait en minuscule, ce qui était en minuscule devenait en majuscule. Mais si on fait ça devant vous, vous n'en rendez pas compte. Et après, on a étendu le phénomène, on s'est rendu compte mais que ça marche sur des choses incroyables. C'est-à-dire que si on fait des changements importants devant les gens, il y a une expérience qu'on raconte, qui a été faite en vrai dans la rue, par le Simon du Gorille Invisible dont on parlait précédemment. Quelqu'un pose une question à quelqu'un dans la rue, et puis simplement ils sont interrompus par quelqu'un qui passe entre les deux, et on change la personne qui posait la question. Et alors, ce qui arrive jamais dans la vraie vie, en fait, vous le remarquez pas. Tant c'est que pas... sont pas en frein, si c'est une personne âgée qui est en train de vous poser une question,
oui,
et puis qui a un enfant,
qui a une énorme
après,
moustache.
Vous en rendez compte, voilà. Mais tant qu'on reste dans la même catégorie de personnes, il n'y a pas de souci, vous en rendez pas compte. Vous pouvez commencer à répondre à quelqu'un qui est devant vous, et continuer, mais une seconde après, dans le livre, on met un lien justement sur le film de cette expérience, on voit, il y a juste, ils sont interrompus par quelqu'un qui passe en portant un objet, et ils profitent de cet instant pour échanger les personnes, on s'en rend pas compte, et ça a vraiment fasciné sur ce que ça nous apprenait de notre perception visuelle, de notre mémoire visuelle, parce que on a l'impression d'être plutôt performant en la matière, et en fait, on l'est assez peu.
Mais pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'on ne regarde pas les gens ? Par exemple, souvent, je, quand j'ai vu des gens dans la journée, je me dis, tiens, est-ce que tu te souviens de comment ils étaient habillés ? Et la plupart du temps, pas du tout.
C'est pas qu'on ne regarde pas les gens, c'est à nouveau ces processus de simplification. C'est qu'en fait, on a une capacité très limitée, malheureusement. Et donc, finalement, on n'a pas besoin de constamment savoir tout ce qui est autour de nous. Alors, quand c'est à très court terme, il y a un chercheur... célèbre en psychologie, qui s'appelle Kevin O'Regan, qui disait que finalement le monde extérieur est une sorte de mémoire visuelle pour nous aussi. C'est-à-dire que finalement, si je ferme les yeux, c'est pas grave si je me rappelle pas ce qui est autour, parce qu'il suffit que je regarde à nouveau. Les choses autour de nous sont encore là. Si je me rappelle pas comment est habillé Cyril à côté de moi, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que l'information, elle est présente à côté de moi.
Ouais, mais c'est pas sûr avec le futur qui nous guette si on est dans l'anticipation et la science-fiction.
Alors, sans doute, mais en tout cas, il y a ce décalage qui est peu intuitif. C'est quelque chose d'assez amusant, ça, de se rendre compte qu'en fait, on est plutôt assez mauvais dans notre mémoire visuelle, même à court terme.
Amusant et décevant.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Un vrai magicien essaie d'inventer quelque chose de nouveau, qui fera que les autres magiciens s'arracheront les cheveux.
Je suppose que toi, tu as ce genre de tour.
Sans aucun doute. Celui qui me rendra légendaire.
Tout grand tour de magie comporte trois actes. Le premier s'appelle la promesse. Le magicien vous présente quelque chose d'ordinaire qui est bien sûr loin de l'être. Le deuxième acte s'appelle le tour.
Il traque votre technique.
Le magicien a le don de transformer une chose ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Alors vous cherchez le secret. Mais en vain. C'est pourquoi il existe un troisième acte, le prestige. C'est celui des rebondissements imprévus, des choses que vous n'avez jamais vues. Cet homme accomplit ce que les magiciens prétendent faire.
De la vraie magie.
Je sais ce que tu es vraiment.
Tu veux la vérité ?
Rien n'est impossible.
Abracadabra.
Le prestige de Christopher Nolan, ça permet de faire des recommandations de films aux auditeurs tout au long de l'émission. Je suis avec les chercheurs en psychologie cognitive André Didier-Jean et Cyril Thomas pour parler de l'ouvrage Les secrets de la prestidigitation. Et là, je voudrais qu'on aborde un mécanisme absolument fascinant parce qu'on peut l'appliquer dans tous les domaines. C'est même un peu effrayant. C'est un mécanisme connu en psychologie sous le terme d'effet d'Einstellung. Qui veut se charger de cette très mauvaise nouvelle qui nous attend ? André Didier-Jean.
Le principe de cet effet au nom un petit peu barbare, c'est le phénomène selon lequel, quand on a une solution qui nous vient à l'esprit pour résoudre un problème, voire même une idée, c'est très difficile de s'en détacher et ça va nous rendre aveugles aux solutions alternatives.
Même si elles sont plus simples et plus évidentes.
Même si elles sont plus simples et plus évidentes. Et c'est un des effets sur lequel on a travaillé avec Cyril, parce que la magie offrait un outil extraordinaire pour ça, parce que c'est connu des magiciens sous le nom de la fausse solution. Les magiciens, ils savent que s'ils attirent votre esprit sur une fausse solution, ils vous mettent, par leur façon de se comporter, par l'idée en tête que, par exemple, une boîte a un double fond, ça va vous rendre aveugle à une solution que vous auriez pu trouver par ailleurs sinon. C'est un phénomène qui est vraiment assez étonnant, à nouveau, chez l'humain. C'est que dès qu'on a une idée qui nous arrive à l'esprit, et on peut nous la... Alors, je suis d'accord que c'est un peu inquiétant, parce qu'on peut nous la mettre dans l'esprit, et les magiciens le font, alors, pour une cause un peu noble, mais ça marche extrêmement bien, on a fait des travaux en laboratoire là-dessus, sur le fait que même si on vous met une idée qui peut avoir l'air absurde, ou ce qu'on avait montré, c'est que ça marche avec une idée qu'on vous montre fausse, finalement. On vous met dans la tête que la solution de quelque chose, c'est ça, puis on vous dit « Ah ben non, c'est pas ça ». Et ben, le fait d'avoir eu en tête, même si vous savez que c'est faux, ça va vous empêcher de trouver la véritable solution.
On apprend par exemple que la plupart des joueurs d'échecs échouent à trouver la solution optimale, moins familière à celle qu'ils connaissent déjà, donc la routine nous aveugle, mais ça touche aussi à la créativité, puisque la pensée est devenue rigide. Cyril Thomas, comment est-ce qu'on peut s'entraîner à penser autrement ?
Alors c'est une question compliquée. Ce que montrent les études, c'est qu'en fait, c'est assez compliqué de sortir de ce piège de la fixation de pensée. L'idée, c'est que l'inverse de la fixation de pensée, c'est la flexibilité mentale, c'est ce qu'on appelle penser hors de la boîte, essayer de penser différemment. Je pense que le meilleur entraînement, c'est un peu celui qu'on fait quand on est magicien, c'est d'essayer de voir, par exemple, un objet comme tout ce qu'il n'est pas. Par exemple, une bouteille, c'est un contenant. Ok. Votre esprit est fixé sur l'idée que c'est un contenant. Maintenant, comment est-ce que vous allez pouvoir, c'est ce qu'on appelle les life hacks par exemple, imaginer comment utiliser une bouteille différemment au-delà d'un contenant. Ça pourrait être, je ne veux pas que ce soit le cas, mais ça pourrait être un piège à guêpe par exemple. Je ne veux pas que ce soit le cas. Ça pourrait être un outil autre pour faire de la musique par exemple. Mais simplement avec tous les objets du quotidien, essayer de se dire comment est-ce que je peux utiliser cet objet du quotidien sur une toute autre fonction très éloignée de celle pour laquelle cet objet a été conçu. Et plus on arrivera à avoir cette pensée qu'on appelle divergente, à imaginer plusieurs solutions possibles avec un même objet, plus peut-être que dans la vie de tous les jours, avec cet entraînement qui se fait sur plein d'objets, vous arriverez à limiter ce biais de fixation de pensée, ce détournement d'attention, cette fixation d'attention sur un point précis qui nous empêche de penser ailleurs. Si je vous dis de ne pas penser à un ours blanc, vous pensez à...
Un cornichon. Exactement. Non, un ours blanc, bien évidemment, voilà. C'est impossible. Parce que Exactement. Vous me le mettez dans la tête.
C'est assez automatique, c'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué d'en sortir, parce que quand bien même vous auriez des automatismes qui vous empêchent justement de commettre cette erreur, ben il y a quand même des a priori qui font que ça va garder une trace dans votre esprit, même si vous savez qu'une information est fausse, c'est le problème des fake news, il y a toujours une partie de cette réalité qui existera quelque part nichée dans votre cerveau, et ça c'est compliqué.
Ah oui, c'est très compliqué. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur le principe de moindre résistance, compris assez tôt au XIXe siècle par le psychologue Alfred Binet, auteur d'un article intitulé « La psychologie de la prestidigitation », qui a fondé à la Sorbonne, ce qui sera l'un des premiers laboratoires de psychologie scientifique au monde, où il a fait venir des magiciens. Très bien. Cyril Thomas, vous avez été pointé du doigt par André Didier-Jean, c'est à vous.
Il adore ça.
Ah, j'adore ça. Non, c'est c'est un de mes principes préférés en magie, et parmi ceux de l'ouvrage, c'est vraiment un de mes préférés aussi. En fait, l'idée du principe de moindre résistance, c'est que lorsque vous avez plusieurs choix qui, pour vous, ne sont pas, ont à peu près le même poids, c'est-à-dire que si je vous fais choisir une carte de dos, vous n'avez pas une préférence pour un dos plutôt qu'un autre, vu que c'est que des dos. Alors comment est-ce que vous allez faire un choix ? Pourquoi est-ce que vous ne restez pas bloqué devant le paquet de cartes ? Eh bien en fait, ce que montrait Alfred Binet, il en discutait à l'époque, c'est que face à cet éventail de choix, votre choix va se porter vers l'objet, donc la carte, qui est tout simplement la plus accessible mentalement et physiquement, celle qui nécessite le moins d'efforts pour être choisie.
Donc comme dans les supermarchés, les produits les plus chers.
Exactement, c'est exactement ça. C'est le principe de moindre résistance, en fait, c'est un principe d'économie. C'est-à-dire que notre cerveau, eh ben, je vous l'ai dit, il est limité. Donc, il n'aime pas faire beaucoup d'efforts, que ce soit physique ou autre. On a des ressources limitées, donc on va toujours faire les choix, lorsqu'on n'a pas vraiment de préférence de base, les choix qui sont les plus économiques. On est un petit peu fainéant, en fait.
Oui, ça, je crois qu'on le savait.
Ouais, c'est vrai.
Mais alors, dans le même ordre d'idées, il y a une étude qui m'a un peu dérangée parce que j'en ai vu les dangers. Et ça concerne, d'abord, ça a l'air anodin, ça concerne le choix d'un thé avec l'odorat. Alors là, André Didier-Jean, je vous laisse raconter ça parce qu'apparemment, on peut appliquer ça à de la politique. Et je trouve ça déjà fou avec du thé, mais alors avec de la politique.
Oui, alors c'est quelque chose qui a été montré il n'y a pas très longtemps, un phénomène qui a appelé la cécité, cette fois-ci, de choix. Et... l'expérience d'origine, alors c'est pas avec du thé, ça a été fait avec du thé, hein. L'expérience d'origine c'est avec des visages. Ou ce qu'ont fait les auteurs dans un papier qui a fait beaucoup de bruit en psychologie, c'est qu'ils présentaient deux visages et ils demandaient aux gens de choisir le plus séduisant des deux. Les gens choisissaient un des visages et par un petit tour de passe-passe, les expérimentateurs leur donnaient le visage qu'ils n'avaient pas choisi. En leur disant, ben voilà, vous avez choisi ce visage, maintenant est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Et ce que montraient les auteurs, c'est que ben, les personnes trouvaient des raisons objectives de pourquoi ils avaient préféré ce visage, alors que c'était le visage qu'ils n'avaient pas choisi.
Mais c'est délirant.
Ils disaient parce que ce visage est plus souriant, parce que si j'allais dans un bar, c'est probablement plutôt vers cette personne-là à qui j'aurais envie de parler. Donc ce phénomène a vraiment fasciné. Il a été étendu ensuite, effectivement, à toutes sortes de domaines. L'odeur de thé dans un supermarché, ils ont fait sentir différents thés. Et puis les gens savaient en plus qu'ils allaient pouvoir repartir avec leur thé préféré pour les remercier de donner leur avis. Donc on leur faisait sentir deux odeurs. Et puis on leur demandait sur une échelle de dire, ben voilà, de 1 à 5, est-ce que cette odeur de thé, elle vous plaît ? Et puis à nouveau, on inversait leur choix, et puis les gens justifiaient et étaient contents de repartir avec le thé qui, au départ, ils préféraient pas. Et donc sur la politique, effectivement, il y a une étude qui a étendu ça au moment d'un débat Hillary Clinton, et en face c'était Trump, je crois, déjà à l'époque, et sondait les gens sur qui avait été le plus percutant, qui avait eu les arguments. Et exactement la même chose, on inversait, c'est-à-dire que si les gens avaient, dans un premier temps, dans le questionnaire, dit qu'Hillary Clinton avait été plus dynamique, on leur disait, bon, ben, tout à l'heure, vous aviez trouvé que Trump a été un peu plus dynamique, vous pouvez nous dire en quoi ? Et les gens, très sincèrement, justifiés, ben, disaient, bah oui, effectivement, on voyait bien qui connaissait mieux son sujet. Donc ouais, non, c'est quelque chose de fascinant, l'effet, il semble assez massif, étendu à plein de domaines, et très inquiétant. Ouais.
On est très très influençable, en fait.
Oui.
Cyril Thomas.
On est absolument... On est très suggestible, en fait.
Il y a le conformisme social aussi qui joue.
Oui, alors là, il est possible qu'il y ait une forme de conformisme aussi. C'est-à-dire que la personne en face me dit que j'ai fait ce choix. Peut-être que je peux me remettre en question plutôt que mettre l'autre personne en question. Peut-être qu'il y a une forme de désirabilité. J'ai du mal à me dire que j'ai peut-être commis une erreur, donc je ne vais pas admettre que je me suis trompé. Peut-être que ça joue un petit peu là-dedans. Mais globalement, nous sommes des personnes très suggestibles. Là, on parle d'une étude, vraiment en deux mots, dans laquelle les personnes voient une table lévitée. Alors qu'elle bouge pas, tout simplement parce que dans le noir, alors qu'on voit pas bien les choses, eh bien, il y a un faux médium, prétendu médium, qui suggère qu'un des objets est en train de bouger. Et là, il y a énormément de gens qui tombent dans le panneau et qui voient l'objet bouger alors qu'il ne bouge pas, tout simplement parce que face à cette obscurité, face à ces attentes créées par la personne qui a peut-être un certain statut hein, sur l'instant, eh ben, ça va créer une réalité dans notre esprit qui n'existe pas dans le réel. Et ça, c'est dangereux aussi.
Alors, oui, il y a beaucoup de techniques pour tromper le cerveau. On peut noyer le spectateur sous un flux de paroles pour diminuer son niveau d'attention. On peut utiliser l'humour qui fonctionne dans le même but. On peut synchroniser l'attention avec de la musique. Et alors, quelque chose qui est assez universel, pouvez-vous rappeler ce qu'est l'effet Barnum ? Cyril Thomas.
Ah oui, alors... Donc Barnum, ça vient de Barnum, hein, qui avait ses cirques à l'époque, et qui, pour se faire un maximum d'argent, faisait ce qu'on appelle des lectures à froid. Donc une lecture à froid, c'est, imaginez, vous arrivez pour me voir, je vous connais pas, et je vais dire plein de choses sur qui vous êtes, et vous allez vous dire, waouh, cette personne me connaît, incroyable. Alors, en fait, je vous connais pas, tout ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais dire des généralités sur vous, des généralités qui concernent en fait tout le monde, et en fait, l'effet Barnum, c'est cette étrange capacité qu'on a à se reconnaître dans un miroir flou. En fait, je vous dis des généralités, mais vous avez l'impression que ces généralités vous concernent davantage vous que les autres. Chose intéressante, l'effet Barnum, ça fonctionne quand je dis des choses positives sur vous. Dès que je dis des choses généralités négatives, par exemple, parfois j'ai besoin de l'aide des autres, et bien là, pour les personnes, ça concerne un peu plus les autres qu'eux-mêmes. Donc c'est assez unilatéral comme biais. Ça montre comment est l'humain aussi, et c'est assez intéressant.
Mais alors, vous dites dans le livre que c'est parce que l'homme a besoin de se sentir différent du reste du monde, et pourtant c'est ce qui est utilisé parfois dans certains horoscopes. Mmh. On pourrait quand même se dire, pourquoi est-ce que tous les Capricornes seraient identiques ou tous les Poissons ? C'est presque vexant si on cherche la singularité.
Il n'y a pas besoin. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, on peut dire ce qu'on veut, du moment que c'est positif et un peu flou, les gens vont s'y reconnaître.
Donc par exemple, vous avez des potentialités cachées que vous n'avez pas encore comblées, vous êtes quelqu'un de sensible, vous ne le montrez pas toujours.
Voilà, ce genre de phrases.
Vous n'osez pas demander de l'aide.
Ça, c'est négatif. Ah. Ça serait plutôt, les personnes ont davantage tendance à s'appuyer sur vous que la réciproque. Vous êtes la personne, en général, à qui on demande de l'aide. Vous avez eu des difficultés cette année, mais vous avez réussi à les surmonter. Et ce qui est marrant,
mais
c'est
vous
que
vous parlez de moi, là.
Écoutez, c'est ça. Les gens ont vraiment cette étrange capacité aussi, même s'ils savent que tous les Capricornes de France vont lire ça, ou du monde, à se dire, oui, mais ça parle tellement de moi que cet horoscope, il me parle à moi. C'est un biais aussi cognitif, c'est une erreur d'interprétation, mais c'est pour ça que les gens achètent l'horoscope, c'est parce que ça les concerne plus eux que les autres. Bien sûr que c'est pour tout le monde, mais quand même... Il n'y a pas de hasard, c'est comme un peu plus pour moi que pour les autres.
Mais vous ne croyez en rien tous les deux, il n'y a rien de magique, il n'y a rien d'inexplicable, parce que parfois quelque chose qu'on appelle magique aujourd'hui peut simplement être quelque chose que la science n'a pas encore expliqué.
Alors, c'est deux questions, est-ce qu'on croit en rien ?
Oui.
Oui, à titre personnel, je suis assez rationnel et je ne crois pas qu'on a tout expliqué, hein, mais je crois que beaucoup de choses sont explicables. Mais en tout cas, si on revient sur la magie et sur la psychologie, il y a un grand décalage, et ça on le voit nous au quotidien, entre notre sentiment de contrôle et puis la réalité de ce qu'on traite comme information, ce sur quoi on a vraiment le contrôle dans notre vie de tous les jours. C'est ce qui fait le charme de notre métier, c'est étudier cette question-là. Et ce qui fait le charme de la magie, je crois, c'est exploiter à des fins non répréhensibles et pour le plaisir des gens, ces failles-là.
Cyril Thomas, il n'y a pas des choses qui vous émerveillent comme un petit garçon ?
Moi, je suis quelqu'un qui a vraiment envie de croire. J'avais toujours ce poster quand j'étais plus jeune avec une soucoupe volante, il y a marqué « I want to believe ». J'avais rayé le « want », j'ai mis « I need to believe ». Et en fait, j'ai vraiment envie de croire qu'il existe des choses qui nous dépassent, qu'on ne connaît pas. Bien sûr, ça pourra peut-être un jour être expliqué, peut-être pas par l'homme, peut-être qu'on a des capacités limitées à tout expliquer, mais peu importe, je suis persuadé qu'il existe des choses. C'est pour ça que je m'intéresse aux sciences quantiques aussi, où on voit des paradoxes qui semblent en eux-mêmes magiques. Et c'est pas parce qu'on les explique pas que c'est inexplicable en soi, inexplicable par l'homme peut-être, par l'humain, d'une manière limitée. Mais j'adore croire qu'il existe des choses qui nous dépassent. Moi, ça me fait rêver et je serais absolument triste de me dire que dans le monde réel, tout est expliqué. Le jour où demain, on n'a plus rien à trouver, je serais vraiment un petit garçon triste, pour reprendre votre analogie.
Mais c'est très intéressant, justement, que vous ayez barré le mot « je veux » et que vous l'ayez remplacé par « j'ai besoin ». Parce qu'en fait, je crois que c'est un principe assez universel, d'ailleurs, ouais, qui est aussi étudié en psychologie, c'est qu'on a besoin de croire en quelque chose, quoi que ce soit. Un sens, on peut être très rationnel et croire qu'on a quelque chose à faire sur Terre, une mission de façon pragmatique. Enfin, on a besoin de croire en quelque chose. Sinon, c'est l'absurdité, c'est l'existentialisme et c'est pourquoi pas le nihilisme.
Moi, je ne suis pas convaincu de ça. Qu'on a besoin de... Enfin...
Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas une seule vérité, donc je suis d'accord avec vous et pas d'accord avec vous.
Moi, je crois qu'il y a... Alors, je ne sais pas s'il y a plusieurs vérités, mais je ne crois pas qu'il y ait besoin forcément de croire, parce que je crois que beaucoup de gens dont je crois être ne se posent pas la question. Enfin, peut-être que j'ai...
Vous croyez au cerveau, vous croyez en la science, vous croyez en la psychologie.
Oui, mais ce n'est pas une croyance. Alors, ça dépend ce qu'on met derrière le terme de croyance.
Ah bah oui, mais là, on a 12 heures.
Voilà. Mais évidemment, j'ai des centres d'intérêt, je crois en l'humain, je crois en beaucoup de choses. Mais voilà, si c'est croyance en ce sens-là, oui, on a tous besoin de croire.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night, the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed. Silence.
people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered.
Il est temps de découvrir vos choix musicaux à tous les deux. Le premier, c'est votre choix, Cyril Thomas, c'est The Sound of Silence de Simon & Garfunkel.
Oui, c'est un son que je chante très souvent sous la douche, pas que, en karaoké aussi.
C'est vrai ?
Ouais, je vais pas le faire ici parce que bon, j'ai... Non, c'est un son qui me parle beaucoup, pourtant il s'appelle Sound of Silence, donc c'est paradoxal, mais c'est vraiment un son que je trouve intéressant actuellement, qui explique le fait que, à un moment donné, voilà, cette personne rêve. Et c'est un cauchemar dans lequel les personnes parlent, mais personne ne s'écoute, les gens s'entendent, mais ne s'écoutent pas. Les gens sont devant ce néon qui est leur dieu, et qui peut être une analogie avec toutes les nouvelles technologies, c'est peut-être pas le cas dans la chanson originelle, mais c'est vraiment pour moi une chanson qui a un warning pour dire ce cauchemar, faut pas qu'il se réalise. Écoutez-vous, il faut arrêter juste de parler pour vous entendre. Écoutez-vous les uns et les autres, ne soyez pas dogmatiques par rapport à ces nouvelles technologies, arrêtez de communiquer devant vos téléphones, là, parlez-vous, écoutez-vous. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me fait peur dans la société d'aujourd'hui. Je vois souvent dans le métro ou n'importe où des personnes qui ne se parlent plus, qui ne communiquent plus comme avant, où moi j'étais à 17 ans en train de parler avec tous mes copains, mes copines. Et là, il y a un truc flippant où les gens sont devant leur téléphone, devant ce néon, entre guillemets, et qui ne s'écoutent plus. Même eux-mêmes, en fait, s'écoutent plus. Et je trouve ça triste. Et je trouve que cette chanson, elle fait un beau warning. Elle est magnifique, en fait, par rapport à ça.
La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y los peines de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer.
André Didier Jean, vous avez choisi Los Peces de Lhasa.
Alors, globalement, je suis quelqu'un qui écoute pas beaucoup de musique, mais ce premier album de Lhasa, c'est un album qui m'accompagne depuis très longtemps, je crois, et que j'écoute assez régulièrement, qui me touche beaucoup, pour plein de raisons. Alors, c'est pas forcément l'album le plus gai du monde, c'est à chaque fois beaucoup d'émotions.
Vous avez vu, là, c'est moi qui vous ai manipulé, parce que pendant qu'on écoutait l'extrait, je vous ai dit c'est un album très triste, et là, vous dites c'est pas forcément l'album le plus gai du monde, et je suis sûre que je vous ai influencé.
C'est possible, bon, après... Oui, sans doute, peut-être. C'est une bonne question, je ne sais pas si j'aurais dit ça.
Est-ce que vous l'auriez dit, oui, si vous ne l'avez pas fait remarquer.
Oui, oui. En plus, Lhasa était à moitié mexicaine, et moi j'ai habité au Mexique, donc il y a un aspect autour de l'espagnol, du Mexique qui me touche aussi dans cet album. Et puis je crois que dès qu'on parle de Lhasa, comme elle a eu un destin un peu tragique, bon, ce n'est pas forcément la grande joie qui vient à l'esprit. Mais en tout cas, c'est un premier album, vraiment, j'aime beaucoup.
Alors, j'ai pas le temps, hélas, de vous interroger sur l'information la plus effrayante de l'ouvrage, qui est le fait qu'on puisse induire de faux souvenirs d'enfance dans la psyché de certains êtres avec une photographie. Je laisse les auditeurs le découvrir dans le livre. Et il nous reste même pas une minute pour votre découverte. Vous en avez fait un compte-rendu déjà dans une revue. C'est l'ouvrage Les mystères de l'illusion, magie, phénomènes paranormaux et psychologie de la perception du prestidigitateur américain Matthew L. Tompkins, publié en France aux éditions La Martinière.
C'est un collègue, en fait, que j'ai rencontré quand je faisais mon post-doctorat à Londres, à l'université de Goldsmith. Un ami qui a vraiment un point de vue très historique sur la magie. C'est vraiment quelqu'un qui n'aurait pas dû faire psycho de base. Alors, c'est très bien qu'il l'ait fait, je pense que ça lui a apporté des choses, mais c'est un historien de base. Et dans cet ouvrage, vraiment, il retrace des anecdotes historiques de mémoire, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Hein. On a eu la chance de pouvoir expertiser, entre guillemets, donner une critique, alors positive, hein, de cet ouvrage. Mais voilà, c'est un ouvrage que j'ai trouvé vraiment intéressant sur ce côté un petit peu plus historique. Et ça manque un petit peu en psycho. Non, en psycho, c'est un lapsus. Ça manque un petit peu en magie en général. Donc voilà.
André Didigeant, vous voulez ajouter quelque chose
sur cet ouvrage. Pour ceux que ça intéresse, ce qui est rigolo, c'est qu'il raconte plein d'anecdotes autour du spiritisme, des ectoplasmes et des trucages autour des séances de spiritisme au fin 19e, etc. C'est un ouvrage qui a beaucoup de photos d'ectoplasmes, de fantômes, et il raconte un peu les trucages qui ont été faits. En ça, il est très amusant, cet ouvrage.
Et moi, ce que j'ai découvert, c'est que Harry Houdini, qui était un magicien qui est quand même parti en croisade contre le spiritisme, en fait, au départ, était très intéressé parce qu'il avait perdu sa mère et il était désespéré, donc il s'était tourné vers ses expériences. Enfin, voilà, c'est absolument passionnant. On arrive à la fin de cette émission. J'ai promis aux auditeurs la solution du problème de la balle et de la raquette. Cyril Thomas.
Eh bien, la solution, c'est que la balle ne coûte pas 1 euro.
Non.
Elle coûte 50 centimes.
Pourquoi ?
Eh bien, parce que si la batte et la balle coûtent ensemble 101 euros, et que la batte coûte 100 euros de plus que la balle...
La raquette, hein, parce que là, vous avez mis une batte, mais je l'ai vue parce que rien ne m'échappe.
Originalement, c'était une batte et une balle, pardon. Donc,
ah oui, d'accord.
Une raquette et une balle valent ensemble 101 euros. La raquette vaut 100 euros de plus que la balle si la balle valait 1 euro. Ça voudrait dire que la raquette, qui vaut 100 euros de plus que 1 euro, la raquette vaudrait déjà elle-même 101 euros.
Ça ferait donc 102
donc,
euros
ça ferait
en tout.
102 euros. Mmh. Alors que 50 centimes, 100 euros de plus de 50 centimes, c'est 100 euros et 50 centimes. Plus 50 centimes, ça fait bien 101 euros.
Bravo. Merci beaucoup Cyril Thomas et André Didier-Jean.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci de votre invitation.
Avec grand plaisir. Votre ouvrage « Les secrets de la prestidigitation, comment les magiciens manipulent notre esprit » est paru aux éditions Odile Jacob. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Pascal Dassibat et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Benjamin Wagon.